la différence.
Daniel Mermel, là-bas, si j'y suis, le répondeur, c'est maintenant.
Salut Daniel, bon, eh bien, voilà la cohérence dans la politique de la France, dans la politique de Sarkozy, je devrais dire. On supprime 16 000 places de prof, et ensuite, on crée 30 000 places de prison. Voilà, la voilà la cohérence. Allez, c'était Arnaud dans le 93. Salut.
Comment l'Occident développe l'intégrisme tout en feignant de le combattre? Quand vous entendez que BHL n'aime pas les musulmans, c'est faux. Il accepte même les intégristes en Libye. Et oui, Mustapha Abdul Jalil, ancien ministre de la Justice et président du CNT, va instaurer la charia, ai-je entendu hier sur France Inter. L'Occident a bombardé un maximum de bâtiments, on s'applique à saigner ce pays comme en Irak, et hop, un autre pays au FMI. Madame Lagarde sera bien contente. Sarkozy va pouvoir y vendre sans problème ses rafales, une centrale nucléaire, les États-Unis y instaurer une force militaire. Ah, le vent de la révolte qui souffle sur les pays arabes. Bonne journée à tous. Au revoir.
Bonjour Daniel, donc c'est NAMG de Nantes qui vous appelle. Donc c'est juste pour vous signaler qu'au Tchad, vous savez, c'est un pays qui a au sud de la Libye. Donc au Tchad, les services secrets ont arrêté deux étudiants, donc Bebkika Passoa Alexis et Nendoubayel Nekaou, qui portaient apparemment des documents appelant la jeunesse à manifester contre le régime du président Idriss Déby. Apparemment, ces étudiants sont inculpés de provocation directement liée à une manifestation non armée et donc ils sont arrêtés. Depuis, on ne sait pas trop ce qui se passe et leur santé est mise en danger et tout. Et ils vont passer récemment ou dans quelques jours en jugement. Donc, c'était pour vous éclairer sur ce qu'on appelle la démocratie là-bas dans ces pays france-africains. Un AMG de Nantes. Merci, au revoir.
Bonjour de Gilbert, eh bien j'étais ravi d'écouter l'émission sur Hélène Keller, tout au moins la première partie. Je ne savais pas du tout qu'Hélène Keller avait des engagements progressistes et politiques. Et il faut dire que c'est pas l'association Valentin lui qui va développer, qui va parler de ses engagements politiques. Moi je suis moi-même aveugle, peut-être le JPA, qui est également une association progressiste pour aveugles, qui est à Paris, voilà. Rue Gambetta à Paris, le JPA, PGI, PAA, voilà, qui est une association progressiste pour aveugles. Peut-être sont-ils au courant de ça, parce que c'est la gauche. Voilà, mais Valentin, lui, non, je ne savais pas du tout que c'était cette femme avait des engagements politiques. Voilà, je suis ravi de l'apprendre.
La science a peut-être trouvé un remède pour la plupart des maux, mais elle n'en a pas trouvé pour le pire de tous. L'apathie des êtres humains. Hélène Keller, My Religion, 1927.
Bonjour Monsieur Mermet, j'écoute votre émission là sur Hélène Keller Story, enfin le film. Il me semble avoir entendu que vous avez dit que le film de 62 a été réalisé par Sean Penn. En fait, je crois que vous êtes trompé, le film a été réalisé par Arthur Penn, qui 5 ans plus tard allait faire Bonnie and Clyde. Et Arthur Penn n'a rien à voir, je crois, avec Sean Penn, puisque le père de ce dernier est Léo Penn et non pas Arthur. Voilà. Et pour la petite histoire, les deux actrices qui ont incarné Anne Sullivan et Hélène Keller ont eu toutes les deux un Oscar en 62. Meilleure actrice, Anne Bancroft, et meilleur second rôle, je crois, Patty Duke. Voilà. Merci, bonne émission, et merci encore pour toutes ces émissions. C'était Lionel d'Albi.
Bon, alors au sujet de l'accident de Marcoule, donc officiellement, il n'y a pas eu de contamination. Bon, cela dit, le collectif antinucléaire du Vaucluse a quand même effectué des mesures, notamment le lundi 12 septembre, et à 14h50, à Avignon, au centre commercial Le Pontet, il revêt des niveaux de 98 microrem par heure, alors que la valeur habituelle est de 14. 14 habituellement, et 98 lundi à 14h50. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez, vous croyez qui vous voulez, mais l'information est là. Par contre, l'information ne circule pas. Bon courage.
La crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
Et vive la mondialisation heureuse à la fête de l'humanité, vendredi à 15h au parc de la Courneuve, 93. Là-bas, si j'y suis, avec Frédéric Lordon, en direct et en public depuis le studio Radio France, pour en finir avec la crise.
La crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
Monsieur Lordon, pouvez-vous nous faire un historique argumenté sur la privatisation de la création monétaire depuis plus de 30 ans? Régis de Nîmes.
Bonjour Daniel, j'ai entendu dire que vous étiez à la fête de l'humanité, je vous ai déjà vu l'année dernière, mais j'aimerais vous revoir cette année. J'aimerais savoir dans quel stand, parce que j'arrive pas à trouver où vous êtes. Merci beaucoup. Véronique de Paris.
Alors ça, c'est pas difficile. On sera au stand, au studio Radio France. C'est avenue Jean Jaurès. Et c'est vendredi. C'est le début de la fête de l'humanité. Et on sera à 15h, donc au parc de la Courneuve. C'est près de Paris. Je dis ça si vous nous écoutez en Guadeloupe, par exemple, ou à La Réunion. Voilà, le parc de la Courneuve. C'est à côté de Paris et vous avez compris, notre invité sera l'économiste hétérodoxe Frédéric Lordon qui répondra aux questions du public. Voilà, venez et posez des questions à Frédéric Lordon qui se fera un bonheur et un plaisir, en tout cas pour nous, de répondre à vos questions. Puis on aura de la musique, je pense que ça va être les Chevals, mais c'est ce groupe-là qui nous avait... Ravi les oreilles au temps où nous faisions l'enregistrement du monde diplomatique chaque mois à la Java. Voilà, aujourd'hui on continue. Alors autre chose concernant le collectif antinucléaire du Vaucluse là, qui s'inquiète des possibles risques concernant Marcoule, la CRIRAD à qui nous faisons, pour ce qui nous concerne là-bas, si j'y suis, plutôt confiance, précise dans une note du 13 à 12h30, je cite, d'après les informations dont nous disposons, l'accident n'aurait pas donné lieu à des rejets radioactifs. Cependant, les informations transmises sont trop lacunaires pour le vérifier. À notre connaissance, n'ont été publiés ni le détail des rejets à la cheminée des installations endommagées avant, pendant et après l'accident, ni l'activité volumique de l'air à l'intérieur des locaux concernés et à leurs abords immédiats. Voilà, note de la CRIRAD. Donc, affaire à suivre. Aujourd'hui, on retrouve Hélène Keller. Ça vous a étonné hier, le reportage d'Inès Léraud sur cette femme étonnante, Hélène Keller, 1880-1968, elle est morte en 1968, américaine, qui souffrait de surdicécité, la surdicécité, c'est-à-dire être sourd et aveugle à la fois. On a évoqué longuement sa vie étonnante et le miracle qui a consisté en ce qu'elle retrouve, qu'elle puisse parler, qu'elle puisse faire des études et des études supérieures et qu'elle devienne une grande figure internationale, mais notamment aux États-Unis, où elle était, elle faisait des véritables représentations racontant sa vie, le miracle qu'avait été son existence. Et elle était, on l'a vu, auprès de, dans les bras du président Eisenhower, Kennedy. Enfin, c'était une grande vedette. Mais aussi, ce que nous avons, pas découvert, mais presque avec Inès, c'est qu'elle était également une femme extrêmement progressiste qui s'est battue pour la cause des femmes dans les années 20, mais même par la suite, qui militait pour le contrôle des naissances et qui était inscrite au Parti Socialiste américain, et c'était pas le Parti Socialiste français d'aujourd'hui, qui militait pour l'envoi d'armes en Espagne au temps de la guerre civile espagnole, etc. Et bien sûr, c'est la partie de sa vie qui a été totalement gommée des mémoires. Et effectivement, cette histoire a donné lieu à un film d'Arthur Penn, effectivement, en 1962. Aujourd'hui, on continue avec Inès Leroux. On agrandit un peu le thème, parce qu'évidemment, on est focalisé sur cette étonnante Hélène Keller. Mais on va voir que, bien sûr, elle n'est pas la seule à avoir avoir eu ce handicap. Et elle n'est pas là. Il y a aujourd'hui des gens qui vivent avec ça, qui survivent, mais qui parfois vivent enfin d'une façon différente et de façon tout à fait épanouie. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage d'aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Plage de 15h sur France Inter ce mardi 13 septembre. Une journaliste nous informe que Gollnisch récupère son poste d'enseignant à Lyon 3, poste duquel il avait été évincé il y a 5 ans pour avoir tenu, nous dit-elle, des propos controversés concernant la Shoah. En entendant une telle explication, j'ai tout de suite pensé à l'émission que vous aviez consacrée à Pierre Vidal-Naquet et à son livre « Les assassins de la mémoire ». Les assassins de la mémoire, ce sont précisément ceux et celles qui font de la Shoah, qui veulent faire de la Shoah un objet de controverse, précisément. Merci.
Bonjour à vous tous. Eh ben, nous étions 300 à Mézy, dans Lyon, pour exiger la fermeture d'un élevage de chiens, pourvoyeur de laboratoires où des expériences sont menées sur les animaux, avec d'ailleurs des trucs scientifiques plus ou moins douteuses, des conclusions scientifiques plus ou moins douteuses. C'est pas incompatible avec les droits de l'homme, la défense des animaux, lutter contre la barbarie. Alors on va essayer de faire bouger les lignes. Pour nous, c'est un combat aussi noble que l'abolition de la peine de mort, de l'esclavage, ou l'avortement, ou des choses comme ça. Donc, on espère que l'année prochaine nous serons plus nombreux, puis que les gens vont un peu se militer et se sensibiliser à ce genre de problème. Merci.
Et vous savez quelle maladie vous avez? Vous savez, vous connaissez le nom de votre maladie? Votre maladie.
J'écris sur la paume de la main d'Annie.
Ma maladie. Alors, je suis atteinte du syndrome de Char de type 2. C'est une maladie génétique. Le syndrome de Char touche une grande partie des personnes sourdes aveugles. Tandis que pour mon mari, c'est un accident de circulation qu'il a eu peu avant ses 18 ans.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec Inès Leroux, Hélène Keller et la surdicécité.
Hélène Keller, fille aînée du major Arthur Keller, est née en 1880 à Tuscumbia, comté de Colbert, dans l'Alabama.
Alors Hélène Keller, c'est une petite fille qui a grandi de manière parfaitement normale jusqu'à ce qu'à l'âge de 18 ou 19 mois, une maladie la frappe et qu'elle devienne sourde aveugle.
Grâce à Anne Sullivan, elle avait imaginé un langage tactile de signes dessinés sur la paume de la main.
Une photo d'Hélène Keller qui serre la main de Winston Churchill.
Et puis comme c'était une petite fille très très intelligente, elle va apprendre très vite, ensuite le braille, et elle ira à l'université et sera la première femme diplômée handicapée au monde.
Une photo d'Hélène Keller parlant à John Kennedy.
Beaucoup d'États-Unis aussi ne connaissent pas la vie politique d'Hélène Keller.
Hélène Keller, serrant la main du président Eisenhower.
Oui, elle était membre active du National Women Party, le Parti national des femmes, qui était à la pointe de cette mobilisation dans les États-Unis.
Elle était sourde, aveugle et muette depuis ses 19 mois, Anne Sullivan et Hélène Keller. Après sa deuxième leçon, elle était capable de dire la phrase mot par mot.
I am not dumb now.
Je ne suis plus muette maintenant.
It is not blindness or deafness that brings me my death. Other, it is the attitude that has put men in not being able to speak normally.
La voix d'Hélène Keller. I am not dumb now. Je ne suis plus muette maintenant. Miracle, miracle formidable, miracle en Alabama, miracle dû en grande partie à celle qui a été sa préceptrice, son institutrice, Anne Mansfield Sullivan. Cette jeune éducatrice, lorsqu'elle rencontre Hélène Keller en 1887, donc Hélène Keller a 7 ans, et qui va réussir à inventer avec elle, à elles deux, elles vont inventer ce langage qui va permettre à Hélène Keller de sortir de sa nuit, de son obscurité. Non pas qu'elle va voir, mais qu'elle va comprendre. Et c'est ça les Lumières. Quand on dit le siècle des Lumières, c'est comprendre, c'est sentir, c'est être présent au monde. Ce qui nous touche évidemment au plus profond dans cette vie-là, celle d'Hélène Keller, c'est que vivre, c'est vivre un manque, c'est vivre des manques, vivre c'est manquer. Et c'est ça qui fait écho à ceux qui se considèrent comme non handicapés ou normaux. Et non, on est tous handicapés. Qui peut prétendre être normal? Qui a inventé cette normalité par rapport à une anormalité ou à une non-normalité? C'est une certaine moralité et peut-être aussi une immoralité ou une amoralité que produit l'esprit et que parfois le corps produit à travers ses handicaps. Vivre, c'est manquer, et compenser ce manque, c'est vivre aussi. C'est penser, c'est agir, c'est être présent, c'est lutter. Et Hélène Keller luttait. Voilà ce qui nous trouble et qui nous étonne et qui crée entre le différent et le normal cette étonnante résonance fraternel, c'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis, Hélène Keller et la surdie cécité.
Le sculpteur aveugle qui palpe ton visage. Le sculpteur aveugle a des éclairs dans les yeux. Ses mains douces comme des lézards tremblent et frôlent ta nuque. Ses mains douces comme du pain noir. Le sculpteur aveugle a des fourmis dans les mains qui ont trop vu de visage comme le mien, comme le tien. Le sculpteur aveugle a des mains lasses qui s'ennuient de ces formes fadasses trop pâles.
Sandrine Schwartz, vous êtes linguiste, vous étudiez les moyens de communication chez les sourds aveugles et vous êtes aussi interprète pour sourds et pour sourds aveugles.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'origine, je suis interprète en langue des signes et dans certaines de mes prestations, je me suis retrouvée à devoir interpréter pour des personnes sourdes aveugles et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée à leurs moyens de communication, plus particulièrement la langue des signes tactile, qui est une variante de la langue des signes utilisée par les personnes sourdes bienvoyantes et qui est utilisée par des personnes qui sont sourdes aveugles. Donc pour la comprendre, elles posent leurs mains sur les mains de leur interlocuteur qui s'exprime en langue des signes.
Voilà ce que nous dit Sandrine Schwartz. Évidemment, ça nous intrigue. Comment peut-on, quand on est à la fois sourd et aveugle, communiquer par quels moyens? Eh bien, c'est ces moyens-là qui ont été développés avec Hélène Keller, avec Hans, grâce à la science et l'intuition et l'esprit d'invention d'Anne Sullivan, même s'il y a eu d'autres recherches qui ont consisté à traduire l'objet en signe, c'est-à-dire faire un signe pour un objet, qu'il y ait un signe pour un objet, jusqu'à ce qu'il y ait, par la suite, évidemment, un signe pour un objet conceptuel. Et oui, c'est l'invention de l'écriture. C'est la réinvention de l'écriture qui concerne évidemment toute l'histoire de l'humanité, de notre humanité, qui là se refait, se reproduit et se réinvente à chaque fois qu'on est en présence de ce handicap. Sandrine Schwartz.
Pour vous, linguiste qui étudiez les moyens de communication des sourds aveugles, Hélène Keller, c'est qui ?
Alors, Hélène Keller, c'est la sourde aveugle au sujet de laquelle des livres ont été écrits, des films ont été réalisés. Généralement, quand on parle d'une sourde aveugle, on ne connaît qu'elle. Alors que ce soit en France ou à l'étranger, il y a des traces de personnes sourdes aveugles, mais quasiment partout, qui certes n'ont pas eu un doctorat, certes n'ont pas atteint la renommée internationale que Hélène Keller, mais ont eu des vies tout à fait trépidantes, passionnantes, ont fait preuve de stratégie pour rebondir par rapport à leur surdicécité, pour apprendre à communiquer avec leur entourage et à vivre leur vie de personne. Mais oui, il est certain qu'Hélène Keller n'a pas été la première sourde aveugle instruite aux États-Unis. Il y en a eu au moins deux autres, qui étaient Laura Bridgman. Donc ça a été la première sourde aveugle, si on peut dire, instruite aux États-Unis. Elle est née en 1829. Et elle, c'est une maladie qui l'a rendue sourde aveugle à 2 ans. Et elle n'a pas perdu que l'audition et la vue. Elle a également perdu le goût et l'odorat. Et elle a été éduquée dans une école d'aveugles, par des lettres en relief qui lui ont été mises dans la main par l'alphabet dactylologique. C'est justement par la présence de Laura Bridgman dans l'école de Boston que Annie Sullivan, qui a été l'institutrice d'Hélène Keller, a appris l'alphabet dactylologique. Donc, toutes ces vies sont imbriquées de toute façon. De manière contemporaine à Hélène Keller, en France, il y a eu une éducation aussi pour les sourds aveugles. Donc, il y avait tout un établissement qui les recevait de manière assez large. Et c'est dans cette institution qu'on a trouvé les premières traces de la présence d'une sourde aveugle. Dans un document, il est dit que les messes étaient dites oralement pour les aveugles, signé pour les sourdes, et qu'il y avait une sourde aveugle à qui une sourde retransmettait tout dans la main. Donc c'est la première trace. Mais après, il y a eu toute cette tradition d'éducation des sourdes aveugles, avec les célèbres sœurs Marie et Marthe Hurtin, qui, elles, étaient sourdes aveugles de naissance, qui ont été prises en charge toutes les deux dans cette école. Et donc Marie Hurtin, elle, a appris la langue des signes, a appris des alphabets en relief, connaissait la dactylologie, savait taper à la machine, savait prendre un crayon et écrire sur une ardoise en lettres visibles pour toute personne sachant lire. Il y a également une autre sourde aveugle qui s'appelle Anne-Marie Poyet, qui a eu aussi une destinée très triste. C'est-à-dire qu'elle a été prise en charge à peu près au même âge que toutes les sourdes aveugles qui arrivaient à l'époque, 7-10 ans, qui étaient d'une grande intelligence, qui a très très vite appris, mais au bout de 6 ans d'enseignement, les parents ont décidé de la récupérer. Et là, pour elle, ça a été un dénuement communicationnel total, c'est-à-dire qu'elle n'avait personne à qui parler. Elle a trouvé un travail dans une usine où elle faisait des lacets toute la journée, des lacets et des rubans. Heureusement, il y a une de ses camarades de l'usine, voyante et entendante, qui a appris à communiquer un petit peu avec elle, qui lui servait un peu d'interprète. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a périclité.
Quand on regarde l'histoire d'Hélène Keller, on a souvent l'impression que c'est une volonté extraordinaire. Est-ce qu'il faut toujours que ce soit ça, que ce soit la personne qui ait une volonté de s'adapter à son environnement ? Parce que l'environnement s'adapte peu à ces gens-là.
Ça, c'est clair qu'il faut que la personne ait une très très forte résilience, qu'elle ait également le milieu autour d'elle qui se mobilise. Hein. Et oui, concernant le milieu qui ne s'adapte pas, oui, mais ça, ce n'est pas uniquement malheureusement pour les sourds aveugles. Rien que la situation des sourds, déjà en France. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont adaptées pour eux. Il y a des problèmes d'accès à l'information. Un exemple tout simple, la radio. De même, les émissions de radio, par exemple, quand elles sont après accessibles sur Internet, très rarement, elles sont accompagnées d'une transcription écrite. D'ailleurs, j'espère que pour cette émission, vous allez y penser, ça serait bien. Donc, si la personne sourde aveugle a à sa disposition le matériel adéquat lui permettant de transcrire ce qu'il y a sur un écran d'ordinateur, sur une plage tactile braille, pour elle, ça peut être accessible si on pense à rajouter des transcriptions. Mais ça, c'est tout ce qui est technique. Ce qui est également très important pour elle, c'est les aides humaines.
Mais vous, qui êtes traductrice justement pour sourds aveugles, les sourds aveugles font appel à vous pour quelles occasions ? Ils ont besoin de vous pour quelles occasions ?
Ils font appel à moi dans des situations de la vie de tous les jours. Alors, c'est-à-dire si elles ont besoin de se rendre chez le médecin, si elles ont besoin d'assister à une réunion parce que leur enfant entendant est à l'école et que ça ne se passe pas très bien et qu'on a besoin de rencontrer l'enseignante, ça peut avoir lieu au travail. C'est vraiment dans toutes les situations de communication de la vie de tous les jours. Mais quand je travaille avec des personnes sourdes aveugles, je n'utilise pas que la langue des signes comme moyen de communication. C'est-à-dire que bon, je connais le braille, je sais taper rapidement sur une machine à écrire ou sur un ordinateur. Je peux utiliser de la dactylologie avec eux et éventuellement la reformulation orale, hein, parce que certaines personnes sourdes très malvoyantes lisent encore sur les lèvres. Ou alors réarticuler très fort dans un micro HF. Parce que la surdicécité, ce n'est pas qu'une langue, ce n'est pas qu'un moyen de communication, c'est vraiment une multiplicité de moyens de communiquer avec l'entourage.
Je viens de sortir du RER, de la station Ménessy, et je me rends chez Annie Van Espen, qui est directrice de l'Association française des sourds aveugles. Elle est devenue sourde et aveugle toute petite à cause d'une maladie génétique. Et son mari est également sourd et aveugle. Et pour se rendre chez elle depuis le RER, il y a à peu près 20 minutes de marche à pied. Et elle doit faire toute cette marche avec son mari et leur chien guide, pour pouvoir se déplacer. Avec Annie, on a communiqué par Internet, puisqu'elle peut lire les mails grâce à un clavier assistant braille, un clavier qui est fait à partir de petites pointes qui se soulèvent ou se baissent pour former des lettres en braille. Et donc elle peut lire ou écrire des emails grâce à son assistant braille, on a communiqué comme ça. Mais on ne s'est rien dit sur la manière dont on allait communiquer au moment de notre rencontre. Je ne sais vraiment pas la manière dont on va s'y prendre. Je me suis juste dit que comme elle ne pouvait pas m'entendre quand j'allais arriver, ben j'allais lui prendre la main et puis la poser sur mon visage pour qu'elle sache aussi qu'elle peut me toucher, me prendre le visage si elle veut comprendre. Peut-être si elle veut comprendre ce que je dis. En tout cas, je sais que par mes mouvements de tête, elle pourra comprendre de cette manière si je dis oui ou non. Ça sera déjà ça.
Voilà, on va rencontrer Annie Van Espen, donc, qui est présidente de l'Association française des sourds aveugles. Les sourds aveugles seraient entre 6 000 et 6 500 en France.
Et donc on va, voilà, on ne sait pas comment faire, mais Annie, bon espèce, on l'espère, elle sait comment faire avec ceux qui ne savent pas comment faire. Au passage, je relève ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Schwartz, c'est que cette émission soit transcrite, évidemment, pour nos amis sourds. Donc si parmi vous il y a des, ce qu'on appelle des goldfingers, vous savez, ceux qui ont des doigts d'or et qui savent transcrire très rapidement, eh ben, n'hésitez pas à transcrire cette émission et à nous le faire savoir sur le répondeur de la Basilisque au 01 56 40 37 37. On s'empressera de prendre la transcription, ou bien vous pouvez l'adresser sur le site de l'émission en passant par le site de France Inter. Donc, on arrive chez Annie Van Espen.
Voilà, j'ai trouvé le 44, la petite porte bleue. Je vais frapper. Bonjour.
Il y a 44.
C'est moi.
Bonjour.
Bonjour, c'est moi.
Est-ce que ma chienne a envoyé parce que vous avez frappé à la porte, je pense?
Oui, j'ai frappé.
Parce que normalement, il faut sonner. On a un appareil spécial pour les sonneries avec des vibrations. Je vais vous montrer. Mettez votre main là-dessus.
Oh, quand ça sonne.
Ma chienne ne dit rien quand on sonne, mais elle dit quelque chose quand on frappe. C'est bien. Heureusement. Voilà, c'est mon mari. Il est complètement sourd. Tandis que moi, j'entends un petit peu.
Non.
Le mari et la femme parlent par signe.
Ici, hein.
Non, mais ça va.
Oui, donc, je suis malentendante.
Oui.
Je communique avec les vibrations. C'est pour ça que je ne vois pas du tout.
Ah, mais vous, c'est pour ça que vous
mettez... Mon mari, c'est le contraire. Il n'entend rien et il voit un petit peu.
D'accord.
Alors, pour la communication, c'est un peu particulier. Il faut écrire dans la main.
D'accord, vous voilà. Lui écrivez dans la main. Annie parle avec son mari par signe.
Oui. Vos parents, moi, je m'assois là-bas pour m'entendre.
Elle lui fait des signes devant son œil qui voit. Contre sa main et devant son œil. Elle est en train d'étudier la place où on va s'asseoir.
Voilà. Je pense que vous mettez ici. C'est une interview avant de commencer l'enregistrement, parce que est-ce que c'est une interview avec les questions. Parce que des fois, si je ne comprends pas, je vais devoir écrire dans la main en caractère d'imprimerie. Voilà. Parce que les caractères en minuscules, c'est difficile à comprendre.
Quelle place Hélène Keller, quelle place a-t-elle pour les sourds aveugles?
C'est pas facile.
Qu'est-ce qu'elle représente?
Qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Hélène Keller représente pour nous une personnalité très célèbre par les films Miracle en Alabama que nous avons pu voir autrefois, et aussi par ses ouvrages. Il y en a un que j'ai lu, mais il y a très longtemps, j'ai un petit peu oublié. Mais c'est une personnalité vraiment formidable pour nous. Elle a beaucoup été motivée pour progresser, pour sortir du silence et de la nuit. C'est important pour nous.
Bien sûr, elle n'est pas la seule, puisqu'en France, il y a eu aussi des cas d'exception. Mais je pense que l'histoire d'Hélène Keller peut encourager des personnes sur l'aveugle à persévérer. À persévérer dans leur étude, par exemple.
Hélène Keller. Ce n'est pas la cécité ni la surdité qui m'ont apporté mes heures les plus sombres. Mais la déception de ne pouvoir parler normalement. Longuement, j'ai pensé combien j'aurais pu mieux faire si j'avais su apprendre à parler normalement. Mais au sortir de cette triste expérience, j'ai pleinement compris l'importance des efforts humains, des ambitions et la capacité infinie de l'espoir.
Et vous, vous ?
Oui. Vous ?
À quel âge vous avez perdu la vue?
Alors, quand je suis née, on ne sait pas vraiment si je suis née avec une déficience visuelle et auditive. En tout cas, pour les 18 premiers mois de ma vie, je paraissais entendre et me paraissait voir. À 18 mois, j'avais commencé à dire deux mots importants, puisqu'il s'agit de la désignation de mes parents. Et tout d'un coup, je n'ai plus parlé du tout. C'est à ce moment-là que mes parents se sont posés des questions. Pourquoi j'avais arrêté de parler? Pourquoi je ne parlais plus? Il faut imaginer l'angoisse des parents vis-à-vis d'une telle situation. Et autre chose, mon comportement a complètement changé à ce moment. Avant mes 18 mois, j'étais une petite fille très gaie. Et au moment du changement, je n'étais plus la même. J'étais devenue triste. Je m'éloignais des autres enfants. Donc, ils ont fait part de leur inquiétude aux médecins. À l'époque, il n'y avait rien pour pouvoir savoir ou diagnostiquer. La surdicécité est un problème très mal connu. Encore maintenant, il arrive qu'il y ait des problèmes de diagnostic. Il a fallu attendre mes 5 ans et demi, 6 ans, pour savoir exactement ce que j'avais. Entre-temps, je n'avais pas repris la parole. Et on avait découvert mes problèmes visuels. C'est grâce à mon institutrice que nous avons découvert mon problème visuel. J'allais à l'école dès l'âge de 4 ans. Et mon institutrice était très intriguée par le fait que je ne traçais pas les traits demandés horizontalement, mais obliquement. Et c'est là que s'est posée la question de savoir si je voyais bien ou pas. Et qu'elle a conseillé à mes parents la consultation d'un opticien. On s'est aperçu que mon œil gauche ne voyait pas du tout et que mon œil droit avait environ un dixième. J'ai perdu la vue vers l'âge de 25 ans, progressivement à partir de l'âge de 18 ans. Pour ce qui est de la surdité, mes parents avaient constaté que je ne me comportais plus de la même manière. Au son du klaxon effectué par mon père lorsqu'il rentrait de son travail. Donc, beaucoup de choses les intriguaient. Ils ont tellement insisté auprès du médecin qu'il a frappé dans ses mains derrière ma tête. Et voyant que je n'avais aucune réaction, il a pensé que j'étais complètement sourde, non appareillable. Mes parents m'ont emmené voir un ORL, et c'est là qu'on a vraiment su mon handicap auditif. J'étais malentendante, sévère, mais je pouvais être appareillée, mais pas opérable. Donc, j'ai été appareillée à partir de l'âge de 6 ans et demi, lorsque je suis partie à Paris pour être scolarisée. Parce qu'à l'époque, quand j'étais toute petite, nous habitions dans le Jura. Il n'y avait rien à l'époque pour les malentendants là-bas. Et j'ai appris à parler à ce moment-là.
Il a fallu plus de 4 ans pour connaître votre problème. Il a fallu attendre 4 ans.
Plus, oui. Il a fallu attendre plus de 4 ans. Donc, il a fallu attendre bien des années. Mes parents ont été bien angoissés pendant toute cette période, se posant des questions. Mais il faut dire aussi que je trompais l'impression des personnes parce que j'étais une petite fille très observatrice. Je faisais attention à tout ce qui se passait autour de moi. Donc, ça n'était pas facile de comprendre pour eux. Par exemple, je cite, le médecin était venu voir un de mes frères qui était malade. Il a ouvert sa bouche. Il a demandé à un autre frère d'aller chercher une petite cuillère. Et c'est moi qui suis allée la chercher. Ce qui a trompé le médecin. Il a dit à mes parents, « Vous voyez, elle entend bien, votre petite fille. » Comme j'étais très observatrice, j'avais compris.
Votre histoire ressemble à celle d'Hélène Keller.
Oui, elle ressemble un peu, mais je voyais un petit peu. Hélène Keller ne voyait pas du tout. Donc, elle était quand même plus handicapée. Donc, cela devait être beaucoup plus dur pour elle. Mais je confirme, vu le comportement que j'ai eu quand j'étais petite, après l'âge de 18 mois. Ils font penser que l'on se retrouve effectivement dans un monde noir, un monde silencieux, obscur, même si je voyais un petit peu. Donc on peut imaginer ce qu'était la vie d'Hélène Keller quand elle était petite. Ce sera vraiment très impressionnant pour moi aussi. Donc, moi, j'ai ma propre histoire. J'ai quand même eu un petit peu plus de chance de ce côté-là. Mais Hélène Keller a eu une énorme chance d'avoir Anne Sullivan, cette personne vraiment fantastique, pleine d'énergie, de détermination. C'est grâce à elle qu'Hélène Keller est devenue ce qu'elle était. Et en plus, une autre chance, c'est qu'elle a toujours été accompagnée par une personne dévouée pour voyager, pour se rendre partout. Ce qui est un peu difficile maintenant pour nous, ce n'est pas le cas.
Dans un silence éternel et muet, je traduis tes regards et lis dans tes sourires, interprétant les mots que tes mains veulent dire, dans ton langage étrange qui semble être un ballet. Un émouvant ballet que tu règles pour moi, de gestes fascinants qui sont jamais les mêmes, et quand du bout des doigts tu murmures le thème, j'ai l'impression parfois comme entendre ta voix. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon émouvant amour, mon merveilleux amour, mon déchirant amour. Comme pour te parler, je manquais de moyens, près de toi, comme en terre étrangère, ne pouvant me servir d'aucun vocabulaire, à mon tour j'ai appris le langage des mains. Tu ris un peu de moi quand tu vois mes efforts, car je suis maladroit et fais souvent des gaffes. Je n'ai jamais été très fort en orthographe, mais j'ai tant à te dire et je t'aime si fort. Mon amour,
vous savez quelle maladie vous avez, vous savez, vous connaissez le nom de votre maladie? Votre maladie. Ah. Mmh.
Ma maladie. Alors, je suis atteinte du syndrome de Usher de type 2. C'est une maladie génétique. Le syndrome de Usher touche une grande partie des personnes sourdes aveugles. Tandis que pour mon mari, c'est un accident de circulation qu'il a eu peu avant ses 18 ans.
Et il y a combien de sourds aveugles en France? Combien de sourds aveugles en France ?
En France, nous pouvons compter environ 6 000 à 6500 personnes sourdes aveugles. J'ai commencé à fréquenter des personnes sourdes aveugles à partir de 1985. Auparavant, mes parents et moi, nous ne connaissions pas l'existence d'autres personnes sourdes aveugles. Je me croyais toute seule en France pour être handicapée, de surnécessité. J'ai rencontré mon mari en 1985. Nous nous sommes mariés. Par la suite, il m'a un peu appris la langue des signes qu'il a appris au cours de sa rééducation à côté de Poitiers. Nous ne connaissons pas la totalité de la langue des signes, c'est ça le problème. Mais je signale qu'il y a une chose qui est vraiment bien pour nous, c'est le courrier électronique. Ça, c'est un excellent moyen de communication. Encore faut-il que tous aient un courriel et également qu'ils soient motivé parce que souvent, quand on écrit, par exemple, à une administration, souvent on nous dit de les rappeler au téléphone. Donc, c'est difficile. Ils ne comprennent donc pas forcément ce qu'est la surdicité, même si on l'a signalé. C'est pas facile. Hein.
L'association des sourds aveugles. Depuis quand elle est fondée ?
L'association des sourds aveugles.
Depuis quand elle est fondée ? Quelle est la date de création ?
Alors, l'association française de la surdicécité, qui est une association de sourds aveugles, a été créée en fin août 2009. C'est une association qui est uniquement dirigé par des personnes sourdes aveugles. Il y a un conseil d'administration et un bureau, donc il y a des réunions entre sourds aveugles pour prendre des décisions. Par exemple, cette année, nous avons décidé la création d'un logo pour identifier l'association. Et il vient d'être voté après plusieurs mois de débats entre personnes sourdes aveugles par courrier électronique.
Bravo!
C'est beaucoup de travail, hein, l'association comme ça. Parce que j'ai fait beaucoup de choses maintenant à l'association. C'est ma vocation. Ouais, ça c'est ma vocation. Je l'ai trouvé ça, progressivement.
Vous avez quel âge?
Comment?
Quel âge vous avez?
Quel âge? Oh, je suis plus très jeune, mais je suis pas encore vieille. J'ai 52 ans. Bon. Voilà.
Merci à Anne Van Espen et à son mari, Maxime. Anne Van Espen, c'est elle donc qui a fondé la toute nouvelle association française des sourds aveugles. C'était un reportage d'Inès Leroux. Merci à Sandrine Schwartz, Serge Bernard et à tous. Autre chose, n'oubliez pas que nous vous attendons vendredi à la Fête de l'Humanité avec Frédéric Lordon, c'est donc au Parc de la Courneuve, dans le 9-3, pour une émission en direct et en public à 15h. Le studio de Radio France, c'est donc à la Fête de l'Humanité, c'est sur le plan de la fête, c'est E 5. On trouve ça très facilement. Et puis à 18h, nous serons au stand des Mutins de Pangée, toujours à la fête de l'UMA. C'est au forum des associations, c'est face au village du Livre, et sur le plan, c'est plan G5 avec les Mutins de Pangée. Bon, on parlera des médias, on parlera de la basse, si j'y suis, puis on parlera du film sur lequel nous travaillons, sur Howard Zinn. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, et sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, je le répète, si parmi vous il y a des gens qui ont envie de transcrire cette émission et celle d'hier, eh bien, ce sera avec plaisir que nous la mettrons en ligne. À la technique aujourd'hui, Élise Christophe et Renan Mahé, Bertrand Chometon et Franck Adhérère ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touyez, et Grégory Salomonovitch attend vos messages au répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Bonjour, Cécile de Tabac Info Service, je peux vous aider ?
Bonjour, voilà, alors j'ai entendu dire que le tabac à rouler était moins nocif que les cigarettes normales.
Au contraire, les quantités de goudron et de monoxyde de carbone inhalé y sont plus élevées.
Oui, mais ça rend moins dépendant, non ?
Non, car il y a aussi de la nicotine qui rend dépendant. Mais rassurez-vous, il existe des solutions efficaces pour arrêter. On voit ça ensemble, si vous voulez ?
Pourquoi pas ?
Vous voulez arrêter de fumer ? Appelez Tabac Info Service au 39 89 et bénéficiez des conseils personnalisés d'un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé. 15 centimes la minute.
France Inter présente Hubert Félix Thiéfen.
Lorelai, Lorelai, ne me lâche pas.
Artiste inclassable, Hubert Félix Thiéfen est de retour avec l'Homo Plébis Ultimate Tour.
Dans la ruelle des morts.
En tournée dans toute la France.
Dans la ruelle des morts.
Et en concert à Paris-Bercy le 22 octobre. Retrouvez Hubert Félix Thiéfen dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter et le théâtre Nanterre Amandier présentent « J'aurais voulu être égyptien », mise en scène par Jean-Louis Martinelli, du 16 septembre au 21 octobre. Dans cette pièce adaptée du roman d'Ala El Aswani, deux mondes se mêlent, l'Égypte et les États-Unis, dans un dialogue amoureux porté par plusieurs couples d'hommes et de femmes. Retrouvez Ala El Aswani le 9 octobre à 10h10 dans « Éclectique ».
16h, presque une sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse, j'y suis, les infos, Laetitia Gaillet. Salut!
Ziad Takieddine a été mis en examen aujourd'hui par le juge Van Runbeck dans le cadre du volet financier de l'affaire Karachi. Ziad Takieddine est soupçonné d'être l'intermédiaire dans la vente de sous-marins par la France au Pakistan en 1994, vente qui aurait servi à financer des politiques. Il est poursuivi pour abus de biens sociaux. Nicolas Hulot avait fait signer en 2007 au candidat à la présidentielle son pacte écologique. À son tour, pour 2012, Transparency International soumet 7 engagements au candidat. L'ONG anticorruption les a rendus publics aujourd'hui. Parmi les propositions, la fin du cumul des mandats, 10 ans d'inéligibilité pour tout élu corrompu et un super procureur pour une justice indépendante. La bourse de New York a ouvert en hausse cet après-midi. Il n'empêche, la Société Générale continue de faire du yo-yo. Dès l'ouverture de la bourse américaine, la banque française a perdu 8% de sa valeur. Ce matin, l'agence de notation Moody's a abaissé d'un cran sa note, tout comme le Crédit Agricole, en raison de son exposition à la dette grecque. La dette grecque, il en sera d'ailleurs question en fin d'après-midi. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Georges Papandréou doivent en parler au cours d'une téléconférence. La Banque Populaire des Alpes devra indemniser un de ses clients. Le tribunal de grande instance de Grenoble a rendu son jugement aujourd'hui. Il estime que la banque a manqué à ses obligations de mise en garde, d'information, de conseil et de loyauté. Entre 2006 et 2007, elle avait conseillé à Bruno Pieraccini d'acheter 614 actions Natixis. Il les avait revendues sur ses conseils en 2010. Entre-temps, la crise est passée. Natixis a été en première ligne dans l'affaire des subprimes. Résultat, le cours de l'action avait chuté de plus de 80%. La majorité des 270 salariés de l'usine Faurecia à Nompatelize dans les Vosges poursuit aujourd'hui sa grève. Ils protestent, ces salariés, contre le nouveau projet industriel. Le site fabrique actuellement des armatures de sièges pour voitures. Il doit se convertir l'an prochain dans la construction de voitures électriques. Selon les syndicats, 20% des salariés seulement seront conservés. Les suites de l'explosion d'un four près du site nucléaire de Marcoule dans le Gard lundi. Il est trop tôt pour dire si l'accident est lié aux lacunes constatées dès 2008. On ne peut pas, selon l'autorité de sûreté nucléaire, formuler d'hypothèse pour l'instant. Michel Fourniret et Monique Olivier ne sont plus poursuivis dans les affaires Paris chez Domès du nom de ces jeunes filles disparues entre 1988 et 1990 dans Lyon. D'après l'avocat de Monique Olivier, le couple a bénéficié d'un non-lieu fin août. La circulation sur l'autoroute A9 entre Béziers et Sète continue de se faire sur une voie, conséquence d'un gros accident en début d'après-midi. Deux personnes ont été tuées et 6 autres blessées. Un camion a traversé la chaussée et percuté un autre camion arrivant en sens inverse. Deux voitures ont également été percutées. Et si on limitait les gains de l'euro-million, il est vrai que les 162 millions gagnés hier par un joueur du Calvados fait des envieux. Le député d'hiver droite du Haut-Rhin, Eric Strohmann, demande aujourd'hui qu'on limite à 30 millions la cagnotte. Il le dit dans une lettre adressée à la Française des Jeux. Il juge ces montants excessifs. Enfin, Cyril Dessel raccroche. Le cycliste d'AG2R La Mondiale, ex-maillot jaune du Tour de France, annonce aujourd'hui qu'il met un terme à sa carrière à l'âge de 36 ans. Vous écoutez France Inter, il est 16h04.
Tous les dimanches, à 20h10, le masque et la plume, Jérôme Garcin.
On va y venir.
C'est un petit peu ça, quoi.
Littérature.
Non. Comme il y a beaucoup de virgules, il y a beaucoup de petits points de suspension.
Cinéma.
Moi, je trouve que vous avez tort.
Théâtre.
J'ai trouvé.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume,
écrivez vos emails.
Non.
Rendez-vous demain dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
Carrefour de l'Odéon, pardon, Frédéric L'Odéon, c'est à vous.
Et bonjour Laetitia.
Bonjour.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Tout à l'heure, je recevrai François-Xavier Roth, chef d'orchestre, déjà venu dans cette émission, et qui a plein d'aventures, il va nous raconter ça. Un disque qui sort aussi, autour de l'Oiseau de Feu, de Stravinsky, et puis des pièces d'inspiration orientale. Et avant, je voudrais vous parler, comme chaque année, d'un festival à La Roche-Posay, c'est dans la Vienne. Les vacances de Monsieur Haydn, c'est très sympa, il y a une tête de Haydn avec des lunettes de soleil. 7e édition, et ce sont des copains qui se rejoignent, se réunissent autour du directeur artistique Jérôme Pernaud. C'est un festival parrain par le chef d'orchestre Marc Minkowski, et vraiment on se régale. Il y a des concerts dans le in, comme on dit, à Avignon, et puis dans le off, c'est-à-dire 10 concerts sur le thème des contes et légendes, et puis le off, c'est 50 concerts gratuits de 20 minutes dans les endroits les plus étonnants, en plein air parfois, enfin bref, beaucoup d'artistes. En voici deux, alors il y en a un qui sera en tout cas au festival, c'est Florent Eo à la clarinette, et il joue là une très belle musique de l'argentin Carlos Guastavino avec la pianiste Marcela Ruggeri.
Thank you.
Conclusion du rondo de la sonate pour clarinette et piano de Carlos Guastavino, compositeur argentin né en 1912, qui nous a quittés en l'an 2000, interprété par Florent Eo à la clarinette et Marcela Ruggeri au piano. Donc Florent Eo fait partie des nombreux amis du festival Les Vacances de Monsieur Haydn à la Roche-Posay dans la Vienne. Il y aura aussi Sergei Malov, Ayako Tanaka, Lise Berthaud, Adrien Lamarca, altiste, Jérôme Pernaud, Yann Levionnois, violoncelle, Jérôme Ducrot, Adam Laloum, piano, etc. etc. Je ne vais pas citer tout le monde. C'est Guillaume Connaisson, le compositeur qui est un complice aussi de ce beau festival, Fabien Waxman, autre compositeur, etc. On peut citer Neri Catino, scénariste, chanteur et metteur en scène, Olivier Davio, compositeur. Bref, une belle ambiance à aller vérifier sur place entre le 16 et après-demain et le 18 septembre à la Roche-Posay. On pourra entendre les deux frères en musique, Jérôme Pernaud et Jérôme Ducrot, comme on va les entendre maintenant dans deux des 12 variations sur la flûte enchantée de Ludwig von Beethoven. C'est l'air de Papageno, Ein Mädchen oder ein Weibchen. Je voudrais avoir soit une jeune fille ou une petite femme, c'est tout ce qu'il demande. Quelques coups à boire, le bonheur n'est pas loin du cœur de cet oiseleur fameux et jovial.